Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro. Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 6 mars 2023. En Mauritanie, 4 djihadistes s'évadent d'une prison de la capitale. La Tunisie annonce des mesures en faveur des étudiants et migrants originaires d'Afrique subsaharienne après les récentes agressions. La 28e édition du FESPACO s'est terminée sur une note de satisfaction, mais les organisateurs s'inquiètent de la situation dans les salles en Afrique.
C'est clair que pendant le FESPACO, quand même, il y a un engouement. Un engouement, et les gens viennent beaucoup plus, ne serait-ce que les festivaliers étrangers qui sont là. Donc, ça crée beaucoup plus de mouvements que les jours habituels.
Reportage à suivre de nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. En France, nouvelle journée de mobilisation demain mardi contre la réforme des retraites annoncée comme massive. En Afghanistan, la rentrée universitaire s'est déroulée sans les femmes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'un des principaux chefs de la rébellion centrafricaine, l'ex-président François Bozizé, a quitté le Tchad où il était exilé pour la Guinée-Bissau qui a accepté de l'héberger. François Bozizé a quitté le Tchad le 3 mars, précisément, en vertu d'un accord rendu possible lors d'une réunion tripartite Angola-Tchad-République centrafricaine à Luanda le 17 février, a annoncé ce lundi le ministre tchadien des Affaires étrangères Mahamat Saleh Anadif. La guerre civile déchire la Centrafrique, pays parmi les plus pauvres, depuis 2013, quand une coalition de groupes armés dominée par la SELECA a renversé M. Bozizé, lequel a ensuite organisé et armé des milices dites anti-Balaka pour tenter de reprendre le pouvoir. En Mauritanie, 4 prisonniers islamistes se sont évadés après avoir tué 2 gardes pénitentiaires et blessé 2 autres. Les forces de l'ordre se sont lancées à la traque des fugitifs et les populations sont appelées à la vigilance. À Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop.
C'est vers 21h que des passants ont entendu des coups de feu de l'intérieur de la prison centrale située au cœur de la capitale Nouakchott, à quelques encablures du palais présidentiel. Aussitôt, la rumeur inonde les médias privés et les réseaux sociaux. On parle de plusieurs détenus qui s'évadent après avoir tué des gardes pénitentiaires. Plus tard dans la soirée, le ministère de l'Intérieur a confirmé la mort de 2 pénitentiaires et 2 autres légèrement blessés. La vidéo de l'une des victimes gisant dans son sang a fait le tour de la toile. Et le ministère d'annoncer dans un communiqué de presse la traque de 4 terroristes évadés de prison en appelant les populations à fournir toute information pouvant aider à les arrêter. Il s'agit d'islamistes condamnés à mort ou à 10 ans de prison pour terrorisme. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Dans le nord du Burkina Faso, au moins 12 civils ont été tués jeudi lors d'une attaque de djihadistes présumés. Les assaillants ont attaqué le village d'Aorema, situé à une dizaine de kilomètres de Waiguia, chef-lieu de la région du nord. Au lendemain de cette attaque, un couvre-feu a été instauré dans toute la région du nord de Burkina Faso, frontalière du Mali et régulièrement visée par les djihadistes. L'un des candidats battus à l'élection présidentielle du Nigeria, Atiku Abubakar, a manifesté aujourd'hui avec quelques centaines de ses partisans à Abuja, la capitale, devant le siège de la commission électorale INEC, qu'ils accusent de manipulation de résultats. Si l'INEC a reconnu des failles lors du processus électoral, elle rejette cependant les accusations de fraude. Bola Tinubu, candidat du parti au pouvoir, a été déclaré mercredi nouveau président élu du Nigeria par l'INEC au terme d'un processus électoral dont la transparence a été critiquée par de nombreux observateurs. Les deux principaux candidats malheureux à la présidentielle, Atiku Abubakar du principal parti d'opposition, arrivé deuxième, et l'outsider Peter Obi, arrivé troisième, ont contesté les résultats dénonçant des fraudes massives. Va-t-on vers l'apaisement en Tunisie après les mesures anti-migratoires visant les Africains subsahariens? Le gouvernement a annoncé des mesures en faveur des étudiants et migrants africains pour améliorer leur situation après des agressions et des manifestations d'hostilité à leur encontre suscitées par un discours virulent du président Kais Saied dénonçant l'immigration clandestine. Les précisions de John Lindon.
Première mesure, délivrer des cartes de séjour d'un an aux étudiants ressortissants de pays subsahariens pour faciliter leur séjour et leur permettre de renouveler périodiquement leurs documents. En outre, les autorités ont décidé de prolonger les attestations des résidences de 3 à 6 mois pour les personnes venant de nombreux pays subsahariens comme la Côte d'Ivoire, qui bénéficie d'une exemption de visa de 3 mois à l'entrée en Tunisie. La Tunisie souhaite aussi faciliter les opérations de retour volontaire dans un cadre organisé et en coordination avec leur mission diplomatique, avec exemption de pénalités dépassant pour certains les 1 000 euros. Un numéro a également été créé pour signaler toute violation à l'encontre des migrants. Quelques 21 000 subsahariens sont recensés officiellement en Tunisie, pour la plupart en situation irrégulière.
Ajoutons à propos de la Tunisie que 13 militants ainsi qu'un membre du Parlement sénégalais qui avait été arrêté par la police samedi devant l'ambassade de Tunisie à Dakar ont été relâchés dimanche, ont annoncé le préfet et un avocat des représentants. Cet avocat Moussa Sarr avait indiqué que 14 personnes, dont le député Guy Marius Sagna, avaient été arrêtées et amenées au commissariat central de Dakar après être venues devant l'ambassade de Tunisie munies de lettres de protestation après les propos du président tunisien contre l'immigration clandestine en provenance d'Afrique subsaharienne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, la majorité de la population soutient les grèves reconductibles annoncées contre la réforme des retraites du président Emmanuel Macron, selon un sondage publié lundi soulignant l'impopularité des changements que le gouvernement considère comme essentiels. Les détails avec Rosine Monezero.
Des grèves massives sont attendues à partir de mardi, les syndicats promettant de mettre le pays à l'arrêt et des grèves devant toucher de nombreux secteurs tels que les transports, l'énergie et le raffinage du pétrole. Ce mouvement de protestation vise à contraindre le gouvernement à renoncer à son projet de porter l'âge de la retraite à 64 ans contre 62 ans actuellement. Plus de 260 manifestations sont attendues dans tout le pays, avec entre 1,1 et 1,4 million de personnes qui devraient descendre dans la rue, a déclaré à l'AFP une source policière sous couvert d'anonymat. Le projet de Macron de porter l'âge de la retraite à 64 ans est une politique phare de son second mandat qu'il a proposé dans son manifeste pour sa réélection en avril dernier, lorsqu'il a battu le leader d'extrême droite, Marine Le Pen. Selon les sondages, 64% des personnes interrogées pensent que la réforme sera adoptée malgré les protestations. Le Sénat examine actuellement le projet de loi.
Au moins 9 policiers ont été tués et 16 blessés aujourd'hui dans un attentat suicide visant le camion qui les transportait dans le sud-ouest du Pakistan. L'attentat a eu lieu à Dada, dans le district de Cachier, à environ 120 km au sud de Quetta, capitale de la province du Baloukistan. L'Iran va échapper à une nouvelle résolution du Conseil des gouverneurs cette semaine à Vienne, malgré l'escalade nucléaire, après les accords concrets conclus ce week-end à Téhéran par le chef de l'AEA. Le directeur général de l'instance onusienne, Rafael Grossi, a notamment rencontré le président Ibrahim Raisi sur fond d'inquiétudes grandissantes autour des avancées du programme atomique iranien. À son retour, il a indiqué que la République islamique avait accepté de rebrancher les caméras de surveillance sur plusieurs sites nucléaires. Reprise des cours dans les universités afghanes sans les femmes, celles-ci ne sont toujours pas autorisées à étudier par le régime taliban. Seuls les hommes ont donc repris le chemin des classes aujourd'hui après la longue pause hivernale. Alexandrine Ollognon.
J'ai le cœur déchiré de voir les garçons aller à l'université alors que nous, nous restons à la maison, confie une jeune femme de la province centrale de Gore. Fin décembre 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur avait annoncé que les universités étaient désormais fermées aux femmes, entre autres motifs évoqués, le non-respect du port intégral du voile. Cette interdiction est l'une des innombrables restrictions aux droits des femmes adoptées par les talibans depuis leur retour au pouvoir en août 2021. Outre l'exclusion de nombreux emplois publics, elles n'ont pas le droit de voyager sans être accompagnées et sont également bannies des parcs, jardins, salles de sport et bains publics. En réaction, la communauté internationale a lié la reconnaissance du régime taliban et l'aide humanitaire, ainsi que financière au respect par les talibans des droits humains, en particulier celui des femmes, à être éduquées et à travailler.
La Corée du Sud a annoncé aujourd'hui que des entreprises allaient indemniser les personnes soumises à du travail forcé lors de l'occupation du pays par le Japon entre 1910 et 1945, une démarche destinée à apaiser les tensions entre Séoul et Tokyo qui ont affecté leurs liens diplomatiques et commerciaux. Saluée par le Japon, l'annonce a provoqué des critiques immédiates émanant d'associations de victimes et de l'opposition sud-coréenne qui ont accusé le gouvernement sud-coréen de capituler face place à Tokyo. Et puis l'armée ukrainienne a annoncé aujourd'hui son intention de renforcer ses positions à Bakhmout, épicentre des combats dans l'est du pays, réfutant les spéculations sur un retrait face aux troupes russes qui tentent d'encercler cette ville symbole. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Firmin Koyaweda.
L'Union européenne veut aider la RDC à concrétiser son ambition d'être au centre de la production régionale de batteries électriques, écrit l'agence Ecofin. Les deux partenaires ont annoncé ce week-end leur engagement à lancer des négociations en vue de conclure un partenariat stratégique. Selon une étude de Bloomberg Neff, construire en RDC une usine de 10 000 tonnes destinée à produire des matériaux pour batteries électriques reviendra environ 3 fois moins cher qu'en Chine et environ 2 fois moins cher qu'en Pologne, pays membre de l'Union européenne. Le Texas, foyer historique de la production du pétrole aux États-Unis, se veut aujourd'hui à la pointe d'une nouvelle révolution énergétique, celle du renouvelable. Un nouveau parc d'éoliennes y a été inauguré la semaine passée par l'énergéticien français Engie, avec une capacité de production de 300 MW. Terre de raffinerie et de l'industrie pétrochimique, le Texas dispose de son propre réseau pour alimenter ses 30 millions d'habitants, une exception aux États-Unis. La Chine vise une croissance d'environ 5% cette année. L'économie a montré des signes d'amélioration ces derniers mois, avec une activité manufacturière qui a fortement repris en octobre. Elle a abandonné en décembre l'essentiel des mesures anti-Covid qui ont durement touché les commerces et les usines. Par ailleurs, Pékin se fixe comme objectif de créer quelque 12 millions d'emplois en zone urbaine, un chiffre en baisse par rapport à 2022.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
D'abord la CAN des moins de 20 ans, le Sénégal est qualifié pour la finale.
Tout à fait, le Sénégal en quête du premier sacre de son histoire dans la compétition va jouer sa 4e finale sur les 5 dernières éditions. Les Lionceaux n'ont fait qu'une bouchée de la Tunisie 3-0 ce lundi en demi-finale. Ils connaîtront ce soir leur adversaire de samedi pour le titre. Le Nigeria et la Gambie s'affrontent dans la 2e demi-finale.
Au Mali, le championnat national de basketball saison 2023 a démarré le week-end dernier à Bamako.
En prélude à ce démarrage, le bureau fédéral a organisé une journée d'information afin de partager avec les acteurs les nouvelles dispositions qui gouvernent le basketball sur le plan international. Siaka Traoré, correspondant de VOA Bamako, livre plus de détails.
En tout, il y a 12 nouvelles dispositions opérées en 2022 sur le plan international qui ont fait l'objet d'échanges entre acteurs du basketball au Mali. Docteur Djibrila Cissé, premier vice-président de la Fédération malienne de basketball.
Par exemple, la possession alternée, ça a changé. La période d'échauffement, par le passé, l'équipe A s'échauffe toujours sur le camp opposé. Avec les nouvelles modifications, l'équipe A s'échauffe en face de son banc. Ça contient l'arbitrage, les équipes, même les équipements. La taille des numéros sur les maillots, c'est réglementé. Par devant, par le passé, c'était 16, on a ramené à 14. Quand vous avez votre maillot et que les tailles ne sont pas respectées, ça pose problème quand vous sortez pour une compétition internationale. On peut vous sanctionner pour ça.
Le nouveau bureau fédéral, élu en décembre 2022, entend tout mettre en œuvre pour redorer le blason du basketball au Mali, dont l'image a été ternie par une affaire de harcèlement sexuel. Pour rappel, des sanctions d'acteurs du basketball malien par FIBA Monde ne s'étaient pas fait attendre en son temps. En 2021, docteur Djibrila Cissé, premier vice-président de la Fédération malienne de basketball.
En partenariat avec FIBA Monde, on est en train d'élaborer une politique de sauvegarde. La politique de sauvegarde sera bientôt adoptée parce qu'il faut une assemblée générale. Ce texte prend en compte tout ce qu'on a connu comme problème qui n'était pas prévu par nos textes. Il n'y a pas que l'athlète qui doit être sauvegardé, mais c'est tous les acteurs du basket qui doivent être sauvegardés dans leur action au quotidien. Et c'est cette politique qui sera un instrument pour nous pour conforter chaque acteur du basketball dans sa mission.
Certainement une première grande action du nouveau bureau fédéral afin de permettre au basketball au Mali d'avoir son lustre d'antan. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Et c'est tout pour les sports.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
We'll be right back. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Gabon, Jean-Yégué Ndong annonce son retour au sein du parti au pouvoir, le PDG. L'ancien premier ministre de Bongo Père et opposant à l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, vient de larguer la coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping. Jean-Yégué a fait une déclaration publique le week-end dernier à Libreville, une sortie publique sur fond de regret relatif à son combat pour l'alternance au pouvoir. Les réactions à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiang-Nzé.
Après 14 ans de bataille presque frontale contre le régime de Libreville, Jean-Yégué Ndong évoque une expérience loin d'être positive dans les rangs de l'opposition. Il met en cause des comportements, des faits et des opinions allant dans le sens inverse des valeurs annoncées. C'est donc un homme déçu qui rejoint avec armes et bagages le parti présidentiel.
Nous prendrons la liberté solennellement de réintégrer librement la maison du père, le parti du président fondateur, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais.
Pour certains Gabonais, l'ancien proche de Jean Ping a fait le choix de raison en abandonnant l'opposition en plein vol.
Et comme on le dit, la politique, c'est pas figé. La politique est dynamique. Il faut lire le contexte, les circonstances. Et je pense que Jean-Yégué Ndong, fort de son expérience, a compris qu'il avait quelque chose à donner.
Mais pour d'autres, le retour de Jean-Yégué Ndong au sein du Parti démocratique gabonais, comme tant d'autres avant lui, questionne la morale politique.
Au regard de cette instabilité des acteurs qui changent de camp au gré de circonstances, donc une forme d'opportunisme non assumé, il y a de raisons de s'inquiéter par rapport au modèle de vertu, aux valeurs et au patrimoine politique que nous sommes censés transmettre dans notre société.
L'opposition au Gabon, ce ne sont pas les leaders politiques, mais c'est le peuple qui en a marre et qui exige aujourd'hui que l'alternance ait lieu, aussi bien à la présidence de la République qu'au Parlement. Donc nous invitons nos compatriotes à rester concentrés, à rester positifs, parce que au-delà des leaders, l'opposition, ce sont les populations gabonaises qui veulent mettre fin au régime Bongo-PDG.
Appelez-moi désormais camarade, une boutade que Jean-Yégué Ndong lance à ses détracteurs. À 70 ans, le dernier premier ministre de Bongo Père se redéfinit comme un soutien indéfectible de la politique du PDG au pouvoir dans son fief politique du 2e arrondissement de Libreville. Libreville, Ismaël Obiang-Nzé pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Avec la fin du FESPACO tenu à Ouagadougou au Burkina Faso du 24 février au 4 mars, les gestionnaires des salles de cinéma se posent des questions sur l'après-festival. Les salles de ciné refusent du monde durant la semaine dédiée au cinéma africain, mais les cinéphiles se font désirer après. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Yacouba Ouedraogo et Thierry Tkaori.
Si l'engouement autour des salles de ciné augmente pendant la période du FESPACO, les responsables de ces espaces de projection en sont conscients. La pré-FESPACO les ramène dans leur réalité. Aminata Diallo Glaise, alias Kadi Jolie, est une cinéaste, actrice et productrice burkinabé. Elle est la responsable de la salle de ciné Canal Olympia Idrissa Ouedraogo, située dans un quartier populaire de Ouagadougou.
C'est clair que pendant le FESPACO, quand même, il y a un engouement, et les gens viennent beaucoup plus, ne serait-ce que les festivaliers étrangers qui sont là. Donc ça crée beaucoup plus de mouvement que les jours habituels.
Ce même constat est fait par Rodrigue Kabore, président de l'Association professionnelle des exploitants de salles de cinéma et coordonnateur du groupe Neroya. Il estime que cette baisse de la fréquentation des salles de ciné s'est aggravée avec le Covid, puis les coups d'État qui se sont enchaînés. Selon M. Kabore, les deuils nationaux déclarés suite à certaines attaques djihadistes meurtrières ont aussi affecté le secteur.
Et généralement, vous savez que quand on déclare les deuils, nous sommes les premiers touchés parce que généralement, c'est du jeudi au dimanche et ce sont nos périodes haute saison pour nous. Donc, du coup, ça fait que, évidemment, que ça a joué énormément sur nos salles de cinéma. On était obligé, soit on ferme les salles, soit on diminue le personnel. Voilà, on est obligé de mettre certains personnels, en chômage technique.
Autre chose qui réduit la fréquentation des salles de cinéma, le streaming qui permet aux fans de films d'avoir tout sur leurs appareils portatifs. Sama Christophe est un jeune étudiant.
En tout cas, je n'ai pas l'habitude d'aller au cinéma.
Pourquoi?
Mais bon, dû à mon temps et également, vu que je suis tout le temps occupé, donc je n'ai pas eu le temps. Et puis le coin du cinéma aussi est tellement loin de mon quartier. Je suis mes films au niveau à la télévision et souvent dans les téléphones. Voilà, c'est les différents sites, Netflix et autres.
Rodrigue Kabore, coordonnateur du groupe Neroya.
Vous savez, on cherche un justificatif facile en disant « Oh non, mais tout le monde a la télé maintenant, tout le monde regarde ça à la maison. Oh, mais les salles ne peuvent pas marcher. » Ça n'a rien à voir. Le Burkina, je ne connais pas pour les autres pays, mais pour le Burkina Faso, aller au cinéma est une sortie. C'est avant tout une sortie. Monsieur et madame et les enfants partent, font une sortie, aller au cinéma.
En ces temps de crise sécuritaire au Burkina Faso, regarder un film dans son salon est sécurisant, mais n'offre pas le même confort, renchérit Aminata Diallo Glaise. Elle ajoute que même si la fréquentation des salles de projection a baissé, les amoureux du 7e art continuent d'aller au ciné. Thierry Kaoré, Yacouba Ouedraogo, VOA Afrique, Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Direction le Togo, le gouvernement a l'ambition de faire de l'agriculture le moteur du développement du pays. Des foras se tiennent depuis quelques semaines dans les régions du pays. Une occasion pour les producteurs agricoles d'exposer les différents problèmes qui handicapent le développement du secteur. De Lomé, la correspondance de Kossi Wosou.
Norbert Kombaté, reconnu comme l'un des meilleurs cotonculteurs de la région centrale, aurait voulu faire davantage que les 15 hectares emblavés cette année. Mais il a manqué de main-d'œuvre. Il est arrivé au forum des producteurs agricoles de sa région pour que les autorités lui trouvent une solution.
Cette année, j'ai fait 15 hectares et je vois que ça va. Sur les 15 hectares, j'ai vendu 25 tonnes. Maintenant, c'est moi ce qui me manque, c'est le métier qui me manque. En saison, on ne trouve pas. Sinon, si moi j'ai le métier, je ne demande rien.
Pour Foussine Itagba, le secrétaire général de la société Anoa Agro, les difficultés sont de plusieurs ordres.
Nous pouvons citer entre autres l'insuffisance des intrants agricoles, le manque du matériel moderne adéquat, le manque de techniciens et d'encadreurs.
Les éleveurs ne sont pas en reste, ils ont besoin de suivi de vétérinaires.
Surtout au niveau de nos élevages là, s'il y a les animaux qui sont malades, tu cherches même le vétérinaire, tu ne le trouves pas. Tu l'appelles, il est quelque part ici, la soirée, tu l'appelles, il ne vient pas. Mais si ce que dans chaque canton il y a un vétérinaire, ah, ça pouvait diminuer aussi la souffrance là.
En plus de ces problèmes, la disponibilité des engrais, le foncier et surtout les difficultés à l'accès au crédit sont relevés comme des freins majeurs pour le développement de l'agriculture dans le pays. Mouniru Koriko intervient dans la transformation du maïs et du soja.
Moi, si je dois avoir de l'argent pour ma matière première, ça fait autour de 750 millions. Si vous voulez 750 millions, on va vous demander une garantie équivalente à peu près au montant du crédit que vous voulez prendre. Et donc, trouver la garantie est un souci.
L'idée de la création d'une banque agricole est souhaitée par les producteurs, tout en reconnaissant la faible participation du secteur bancaire au financement de l'agriculture. Le ministre de l'Économie et des Finances relève tout de même que des structures de financement sont mises en place par le gouvernement pour soutenir financièrement les producteurs agricoles. En ce qui concerne la mécanisation, le ministre de l'Agriculture, Lekpa Gbegbeni, rassure.
Nous sommes déjà en train de recenser tout le matériel dont ils ont besoin pour donc nous permettre de pouvoir répondre à leurs besoins, que ce soit au niveau de la mécanisation pure, même au niveau de l'irrigation, tout le matériel. Qu'il faut. Nous pensons que déjà cette année, des centres pilotes qui vont se mettre en place pour aider les producteurs.
Ces foras emportent l'adhésion des producteurs qui ont l'occasion de discuter de vive voix avec le chef de l'État Faure Gnassingbé à la clôture de chaque forum de région. Dans quelques jours, ce sera le tour des producteurs de la région de la Kara. Kossi Wosou, Lomé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous.
Dans Washington Forum cette semaine, les femmes à l'assaut du monde digital et le combat pour un monde technologique inclusif. Cette année, la Journée mondiale de la femme braque ses projecteurs sur un écart persistant en matière d'accès au numérique qui empêche les femmes d'exploiter pleinement le potentiel des technologies. Comment garantir un meilleur accès au numérique pour aider à l'autonomisation des femmes? Comment le digital peut-il aider les femmes dans l'entrepreneuriat? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Deux événements ont mis en évidence un clivage des conservateurs américains avant l'élection présidentielle de 2024. Alors que l'ancien président républicain Donald Trump et l'ancienne ambassadrice aux Nations Unies Nikki Haley sont montés sur la scène de la conférence d'action politique conservatrice près de Washington, d'autres ont assisté à une retraite à huis clos en Floride organisée par le Club pour la croissance. Les détails du correspondant national en chef de VOA, Steve Herman, avec un récit de Nathalie Barge.
L'ancien président Donald Trump est revenu sur un terrain familier samedi soir dans la salle de bal du rassemblement annuel de la Conférence d'action politique conservatrice. Lors d'un scrutin non officiel, les participants lui ont accordé 62% des voix pour la primaire du Parti républicain de l'année prochaine. L'ancien président Donald Trump.
In 2016, I declared...
En 2016, j'ai déclaré « Je suis votre voix ». Aujourd'hui, j'ajoute « Je suis votre guerrier, je suis votre justicier. Et pour ceux qui ont été lésés et trahis, je suis votre châtiment, je suis votre rétribution. »
Le seul challenger important et déclaré de Donald Trump jusqu'ici est l'ancienne ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, qui avait été nommée à ce poste par l'ancien président lui-même.
Je suis ici pour demander votre vote. Mais je veux aussi quelque chose de plus. Je veux que nous inspirions à nouveau notre pays.
Mike Pompeo, l'un des secrétaires d'État de Donald Trump, s'est également adressé à la conférence. Il a lancé une pique subtile en direction de son ancien patron.
Nous avons besoin d'un parti, un parti conservateur, que nous pouvons être fiers d'appeler à nouveau notre maison, enraciné dans nos idées fondatrices, dirigé par des personnes de caractère authentique, de compétences et d'engagement vers la mission qui vous a tous amenés ici aujourd'hui.
La républicaine Nikki Haley a également pris la parole lors de l'événement organisé à huis clos en Floride par le Club pour la croissance, axé sur les impôts et l'économie. Le discours le plus attendu à ce rassemblement est venu du gouverneur de cet État, Ron DeSantis, considéré comme concurrent sérieux de Donald Trump pour le choix du futur candidat républicain à l'élection présidentielle de l'année prochaine.
Voilà, le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM, 101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore. sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.